bienvenue à l'écoute de ce 60e numéro d'Ici l'Onde. Aujourd'hui, cette émission se consacre à un fruit, la pomme.
Ça n'intéresse personne, les pommes ?
On a au moins vu quelqu'un.
Bonjour. La France est le quatrième pays producteur de pommes au niveau européen.
On veut un fruit qui se croque très facilement.
Aujourd'hui, il y a des pays dans le monde entier qui envient les pommes françaises.
Donc ça ne dégouline pas.
C'est quand même un bon fruit.
Elle est riche en fibres, en vitamines et en antioxydants.
C'est quoi ces pommes ?
C'est du pur, du vrai.
Un fruit, cela peut paraître anodin. Et pourtant, souvenez-vous, c'était en 2015.
La pomme serait parfaite si elle n'était produite à grand renfort de pesticides.
Ah, c'est la pomme cloche. Oh, bah elle tombe, tiens, elle tombe de peur.
85 échantillons de pommes testés, et ce chiffre inquiétant.
Un pays européen producteur de pommes, c'est la Pologne. Et au niveau mondial, c'est la Chine.
Et ce chiffre inquiétant.
75% des échantillons contiennent des résidus d'au moins un pesticide.
C'est des pommes qui vont faire 300 grammes, c'est monstrueux ça.
Cette étude de Greenpeace menée dans toute l'Europe a été reprise dans les médias. Pour la pomme, 2015 fut une année de discorde. Aujourd'hui pourtant, d'après les professionnels, la production de jus de pomme est à nouveau à la hausse et même à la mode face au jus d'orange.
Ding dang dong, pomme cloche.
Et si on regarde les chiffres au niveau national, la consommation de jus de pomme est en très nette progression. On est à plus de 30 millions de litres de jus de pomme consommés en France aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme et c'est une augmentation constante.
Pomme de vigne, le petit bon, la pomme barrée.
Pomme cloche.
C'est l'ONG Greenpeace qui le dit. En majorité, ces pommes sont destinées à la grande distribution.
Ça ne va pas dans le sens de la société qui veut que tout soit très facile.
La pomme à manger, la pomme de table, la pomme à couteau, la pomme de transformation, c'est-à-dire que tout ce qui est pour les compotes, les jus, et puis après tout ce qui est cidre. En verger, pomme à couteau, c'est le sud-ouest, Tarn-et-Garonne, le centre de la France, là il y a de la pomme. Sur les Charentes aussi, après, et puis toute la vallée du Rhône. Ça, c'est les pommes à manger. Et après, les autres régions sidéricoles, c'est la Bretagne, la Normandie, et puis le bassin parisien.
S'intéresser à la pomme, c'est donc s'intéresser à la manière dont nous faisons société, s'intéresser à l'économie, s'intéresser à l'écologie, la manière de vivre. Je vous propose donc d'écouter et croiser plusieurs témoignages. Vous les reconnaîtrez au fil de l'émission. Celui des croqueurs de pommes, cette association fondée en 1978, s'est fixée pour objectif de sauvegarder des variétés rares de fruits. Jérôme, producteur de pommes à couteau, c'est-à-dire des pommes à croquer, à manger, et la famille Hott, producteur bio, principalement de jus de pomme et de cidre, à partir de variétés anciennes.
La consommation de jus de pomme était certainement au plus bas.
Ici l'Onde, 60e numéro, la pomme de la discorde à la réconciliation, c'est maintenant, première étape, un mot sur les pommes adaptées au marché mondialisé.
La récolte, on la démarre de plus en plus tôt.
Vous pouvez me les mettre de côté ?
Là, ici, nous avons la loca. Elle est tout aussi bonne que la grosse qui brille. Peut-être des fois meilleure. Parce que la grosse qui brille qu'on trouve en grande surface, elles ont traité, surtraité et mal traité.
Croque, 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 croque la pomme. Croque, 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 croque la. Croque, 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 croque la pomme. Croque la, croque la, et tu sauras.
Quand est-ce qu'a eu lieu la bascule vers ce qu'on connaît aujourd'hui ou il y a quelques années, 4 ou 5 pommes seulement dans les étals des grandes surfaces?
Il y a eu un basculement qui a démarré autour de la Seconde Guerre mondiale où on a commencé à importer des fruits d'Amérique du Nord, des États-Unis, la Golden pour ne pas la nommer. Et puis ensuite, il y a eu une accélération. Il fallait des fruits qui se conservent longtemps, qui résistent aux manipulations, aux chocs.
C'est ce qu'affirme Greenpeace.
Lorsque l'on achète nos pommes dans les supermarchés, donc, nous ingérons, sans le savoir, des insecticides et des fongicides.
75% des échantillons contiennent des résidus d'au moins un pesticide.
Avant, on soupçonnait, maintenant on a des chiffres. Si on en est arrivé à effectivement 20-25 traitements sur la pomme, pendant la production, après la production, etc., à gazer les pommes dans des chambres froides, etc., y a toujours des bonnes raisons. On ne maltraite pas des choses, des pommes ou des produits pour rien. L'une des raisons, c'est qu'on veut des pommes qui se conservent, on veut des pommes jolies, parfaites.
La France, l'Italie, la Pologne, la Slovaquie et la Belgique font partie des plus mauvais élèves.
Une association comme Greenpeace aujourd'hui, ils ont donné des choses à faire. C'est ce que je fais moi depuis 20 ans dans le verger. Il faut savoir quand même aussi que c'est le végétal qui a le cycle le plus long. La fleur, c'est au mois d'avril. La récolte, ça commence en septembre jusqu'à fin novembre. Donc le cycle est très très long. Vous prenez une cerise, c'est un mois, carrément à un autre extrême, le radis de 18 jours. Donc la pression climatique, parasite, maladie est plus importante. Les fruits et légumes, aujourd'hui, ne doivent pas y avoir de tâches. Alors on peut être pour ou contre ce truc-là. Moi, je suis producteur.
Pas question qu'il y ait une tâche sur une pomme, c'est ça?
Non, faut pas de tâche sur les fruits. La répression des fraudes nous l'interdit. Donc voilà, on est un peu un métier aussi un peu ambigu entre le climat, la technique, le client. Entre ce qu'il veut, ce qu'il rêve et ce qu'il fait, il y a quand même beaucoup de différences.
Après, il y avait aussi un mode de distribution qui est un petit peu remis en cause, qui n'est pas encore très très remis en cause. Mais voilà, en grande distribution, c'est elle va acheter des pommes à un producteur, elle les met sur une plateforme, elle les dispatche dans ses magasins. Il y a beaucoup de cette notion de circuit long, etc. Donc à un moment donné, il faut que les pommes survivent jusqu'au consommateur final.
C'est du pur, du vrai.
Société qui veut que tout soit très facile.
Greenpeace, à l'origine de cette étude, veut interpeller la grande distribution, les inciter à travailler avec des agriculteurs qui produisent sans pesticides.
On veut un fruit qui se croque très facilement. C'est évident que derrière, il y a le consommateur. Quand on propose un fruit de nos vergers avec quelques taches ou un fruit qui a des bosses, évidemment, les gens, enfin, s'ils ont le choix, il est clair que spontanément, on va vers un fruit qui brille, qui est régulier, qui n'a pas de défaut.
Des pommes avec moins de phytosanitaires, il faudra accepter d'avoir des variétés moins attirantes à l'œil.
Ces fruits traditionnels qui sont sains, je dirais, de nature, mais qui ont des défauts de présentation et qui ne supportent pas la comparaison avec les fruits qui proviennent du grand marché international. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est que les fruits, aujourd'hui, on peut manger des pommes qui ont été conservées 2 ans et qui viennent soit du Chili, soit du compartiment Amérique du Sud.
Ce genre de production, on arrivera à la faire ailleurs qu'en France. Elle est déjà faite ailleurs en France pour moins cher. Donc voilà.
Grand pays européen producteur de pommes, c'est la Pologne. Et au niveau mondial, c'est la Chine.
Que celui qui n'aime pas ça croque, 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 croque les noix. Que celui qui n'aime pas ça croque, 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 croque les noix.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Ici l'Onde, consacrée à la pomme. S'intéresser à ce fruit, cela permet d'aborder l'histoire. Oui, l'histoire, par la petite porte. Je vous propose justement de franchir celle d'un verger de sauvegarde de l'association des croqueurs de pommes.
Aujourd'hui, on ouvre aux visiteurs, oui.
Bonjour, bienvenue. Alors, vous profitez de la porte ouverte ?
Je ne suis pas le seul à venir là. Certains emportent dans leur panier des fruits.
Je voudrais sauver ces deux races-là déjà, parce qu'ils sont assez anciens.
Bon, effectivement, c'est variétés anciennes, mais elles ne sont pas en perdition, parce que c'est comme c'est très bon. Ça s'est quand même beaucoup, beaucoup multiplié.
Oui, non, mais ça existe. Sinon, c'est une autre variété. Hein.
Et donc là, vous faites quoi ?
On va faire... C'est-à-dire, c'est une porte ouverte. Donc, on fait une pression, on va faire goûter le jus de pomme de machin.
On broie la pomme. Ça sent bon ! Ou alors, vous avez mis des pommes trop dures.
Mais comme ici, on sauvegarde les anciennes variétés. Voilà.
Hey, depuis combien de temps il date le verger d'ici ?
2000.
Je crois que c'était avant 2000.
99.
Voilà le chef.
Il y a à peu près 160 arbres différents ici.
Donc il n'y a pas que des pommes.
Et non, il n'y a pas que des pommes. Moi je dis souvent, on est croqueurs de pommes, chasseurs de poires et cueilleurs de savoir. Hein, c'est un peu de poésie là-dedans. On a perdu des fruits parce que les gens en ont perdu l'usage. Il y a des poires qui ne se mangent que cuites. Alors cuites dans du vin ou cuites au four. Et bon, pourquoi ça s'est perdu ? J'en sais rien. Mais donc du coup, les fruits, on ne sait plus quoi en faire. Donc les arbres, si on peut en faire du feu ou les enlever, ça pose aucun problème à ceux qui le font. Ce qui est quand même, sur le plan de la biodiversité, quand même une grande catastrophe. On veut un fruit qui se croque,
très facilement et que ça ne dégouline pas dans les mains. Les croqueurs sont présents dans une soixantaine de départements, hein, puisqu'on est 8000 adhérents sur toute la France. On estime qu'il y a entre 4000 et 6000 variétés de pommes.
Alors ça, j'avais fait identifier. Identifié
ça,
par
et ça sent la pomme en plus. Parce qu'il y a des pommes qui ne sentent pas la pomme.
Et ceux-là, je les ai cueillis. Hein, c'est des cueillis.
Et donc, du coup, ici, il y a à peu près 160 arbres, donc principalement des pommiers. Il y a aussi des poiriers, pruniers, cerisiers. Et, bah, l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer de faire un verger de sauvegarde. On ne va pas appeler ça verger conservatoire, parce qu'un verger conservatoire, il y a un certain protocole précis.
Autre protocole, celui des vergers éco-responsables des pommiculteurs de France. Ils représentent 60% de la production nationale. Comme Jérôme, ils proposent des journées de cueillette et ils consacrent du temps à expliquer leur métier. Floraison, lutte contre le ver de la pomme, protection contre le gel et utilisation de filets.
Ce sont des filets pour la grêle. Donc c'est une protection anti-grêle, donc quand la grêle tombe dessus, ça fait un petit peu effet trampoline et ça protège les vergers.
Donc aujourd'hui on vous propose d'aller cueillir 3-4 variétés, Elstar, Gala, Boskop et Falstaff. Donc devant chaque rang vous avez le nom de la variété et ses caractéristiques, si elle est sucrée, acidulée, voilà.
Vous avez des pommes chez vous, mais vous ne les mangez pas parce que...
Elles sont immangeables. Elles sont toutes véreuses, elles sont toutes pourries. Et elles sont... Alors là, elles sont beaucoup plus petites que celles-ci.
Merci bien. Voilà, bonne cueillette.
Il faut passer par là.
Je cherche des pommes, pas du commerce. Elles sont toutes belles, elles sont toutes... Mais quand on en a mangé, ben, on a encore faim, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais retrouver des vraies pommes, les vraies pommes d'avant, des bien dures.
Donc là, quelles sont les pommes à vente? C'est quoi les noms?
Là, aujourd'hui, on a Gala, Elstar, Reine des Rainettes à la vente. Et après, on va attaquer des variétés plus tardives, Jonagold, Jonagored, de la Falstaff, Belle Char, Chantecler, Rubinette, Pinova, etc. etc.
Il y a quand même des noms de pommes connus chez vous?
Oui, oui, il y a des pommes connues parce qu'il faut aussi vendre des pommes que les gens connaissent. Et il y a des pommes que les gens ne connaissent pas, qu'il faut faire découvrir aux gens.
Et pouvez-vous m'expliquer comment vous faites des pommes régulières?
Eh bien, en fait, au printemps, une fois que ça va commencer à débourrer les premières fleurs, on prend un compteur et on compte le nombre de bouquets qu'il y a sur l'arbre. Donc on sait déjà le potentiel de fruits qu'on va avoir sur les arbres. Et en fonction de ça, on va brûler des fleurs à la floraison.
Dès le stade de la fleur,
oui.
Vous savez qu'il faut peut-être en enlever ou pas, c'est ça?
La première fleur, c'est la plus grosse. Et les petites qui vont être autour, on sait déjà qu'ils vont être trop petits par rapport à la fleur centrale. Donc on va se faire supprimer les bouquets aux alentours. Et après, on va espacer ces bouquets de 20-30 cm sur la branche. Et pendant un mois, on va venir mesurer au pied à coulisse, au millimètre près, les pommes. Et on va faire des interventions pour faire soit accrocher du fruit, soit décrocher du fruit. On donne un stress à l'arbre pour avoir que 150-200 fruits par arbre. Quoi. Bah, c'est, en fait, on parie sur l'avenir et on ne sait pas ce que va être l'avenir. C'est un peu du jeu du poker menteur, mais on se ment à soi-même. Quoi. C'est-à-dire qu'on prend des risques, on va éclaircir, des fois on suréclaircit.
Oh, ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi.
Ça va être des pommes pourries, ça ira beaucoup plus vite.
Durant ces rencontres avec différents pommiculteurs, j'ai pu remarquer que tous aiment partager leurs trucs et astuces.
Du savon noir.
Du savon noir, oui. C'est un des meilleurs insecticides. Les petites bêtes qui viennent se mettre dessus vont se trouver collées par le savon. Et puis ensuite, en fonction de l'année, parce que ce qu'il y a, c'est que le savon noir va se dissoudre dès qu'il va pleuvoir beaucoup. Donc il faut recommencer un peu plus souvent.
Les grandes surfaces, maintenant, ils vendent que des hybrides, hein, probablement avec beaucoup de golden croisés avec d'autres, pour soi-disant la tavelure, la moneliose, qui ne chope pas. Alors que nous, toutes les maladies peuvent être dans le verger. Mais on surveille, on traite très peu, à la bouillie bordelaise, deux fois l'année, on va dire, à la chute des feuilles et avant la floraison.
Ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux. requin roi.
Là, cette année, on a eu des soucis avec la météo. Et ça, c'est de l'argile blanche qu'on pulvérise au mois de juin et deux, trois fois par an pour éviter les coups de soleil. En fait, c'est la crème solaire des pommes, ce qui me permet de limiter de 20 à 30% la perte des fruits par coup de soleil. Quoi. Le gros inconvénient cette année, c'est que normalement, quand il pleut, ça part au lavage. Et là, les fruits restent blancs et du coup, les gens se posent la question si c'est un traitement ou pas. Donc on a mis des petits panneaux dans le verger pour expliquer que c'était de la crème solaire à fruits. Et il suffit juste de les passer à l'eau et ça part. Quoi. Si je fais un marché que je vends des pommes comme ça, j'en vends aucune. Je mets les critos, les gens s'interrogent et on arrive à les vendre. Par exemple, les huiles essentielles, on pourrait utiliser des huiles essentielles, mais c'est trop dangereux pour nous, en tant qu'utilisateurs, par rapport à la concentration qu'on pourrait mettre.
C'est la Boscop, Gala, puis les autres.
Aujourd'hui, il y a des pays dans le monde entier qui envient les pommes françaises. Donc voilà, c'est quand même un savoir-faire.
Bonjour. Et pour les insectes?
Au niveau insectes, on a depuis plus de 20 ans, au niveau du ver de la pomme, c'est le premier insecte quand même qui parasite les fruits, et on met des diffuseurs d'hormones. C'est-à-dire qu'on met des petites bandelettes sur le haut des arbres pour faire une odeur de femelle. Et le papillon mâle va chercher la femelle à tout prix pour se reproduire. Il a quelques jours et il ne trouvera pas de femelle, il va mourir. En complément, on a des nichoirs à mésanges dans le verger. Il y a une cinquantaine de nichoirs. Là, on va installer des nichoirs à chauves-souris qui permettent aussi de nettoyer pour éviter les traitements. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Il y a plusieurs formes d'arbres devant nous.
Oui.
Quels sont leurs noms? Des coupes d'arbres.
Ça, c'est les plamants. Ça, c'est les espaliers. Et là-bas, vous avez les gobelets. 30 ou 40 cm du sol, les premières branches.
Pour quelle raison?
En vieillissant, on n'a pas besoin de monter sur une échelle pour cueillir les fruits. Voilà. C'est la raison.
On fait des plus beaux fruits sur les petites formes que sur les pleins vents. Sur les petites formes, les espaliers, on ne va pas faire des pommes à cidre.
Espalier, ça ressemble à des vignes, pour décrire un peu, des pieds de vigne. Hein.
Si on veut, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, on a un tronc qui monte à peu près jusqu'à 3 mètres, à 3 à 4 mètres de haut, sur lesquels il y a à peu près une dizaine de branches qui doivent porter à peu près 200 à 250 kg de fruits sur l'arbre. Nous, c'est des vergers pour la production et pas pour la décoration des jardins pour prendre l'apéritif sous un pommier. Quoi. Nous, c'est vraiment que la production. Donc, c'est pas du tout la même forme d'arbre. On plante à peu près un arbre tous les 1,20 m. Donc, ça fait une grosse densité à l'hectare. Hein. Si je plante cet hiver, dans 4 ans, je récolte déjà quelques pommes. Quoi. Mais vu le nombre d'arbres, ça fait quelques tonnes. Chez vous, si vous plantez un pommier, il faut attendre 8 ans au minimum pour avoir 5 kg de pommes.
Pas facile de cultiver des pommes, et pourtant, tous ceux que j'ai rencontrés évoquent un nouvel engouement pour ce fruit. D'après eux, ce nouvel essor repose sur la qualité gustative, le respect de l'environnement et la distribution, si possible, directe et locale. La famille Haute concilie tout cela. Chez elle, la pomme est à la fête.
Au miel, ratafia traditionnel et ratafia.
Non, mais j'aime bien le jus de pomme mélangé, moi, pas le jus de pomme pur.
Les mettre de côté, ouais.
plus un carton.
Ouais.
Pomme groseille.
Pomme groseille.
Je suis un bon client ici, moi.
Donc, nous allons nous rendre à l'intérieur du musée pour voir la pressée à l'ancienne.
La collection date de quand? Vous l'avez commencé quand?
Oh, j'ai commencé dès mon très jeune âge, donc maintenant ça fait plus de 30 ans.
Et pourquoi avoir conservé à la fois les outils et les variétés de pommes, hein, il y a plus de 30 ans?
Parce que tout ça, c'est un ensemble, et le patrimoine, c'est pas forcément que du matériel, c'est aussi du végétal. Et si on parle du cidre, les deux sont indissociables. Bon, un peu. Nous arrivons vraiment au cœur de la pressée à l'ancienne.
Donc on voit déjà un cheval.
Cette année, c'est une année relativement chaude et les pommes se conservent très très mal. On aura beaucoup de difficultés pour conserver les pommes. Donc on va être obligé d'avoir un tri plus minutieux que d'ordinaire. Donc une fois les pommes broyées,
Eh bien, la pulpe va être acheminée directement dans le pressoir.
Si tu veux, les cellules du végétal retiennent encore l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Le phare.
Vous remarquerez que même si les pommes sont broyées, le jus ne sort pas.
On le met dans le pressoir et là par contre la poudre va presser comme quand tu presses sur une éponge.
J'adore les noms des variétés de pommes parfois. Là il y a quoi en local?
Alors sur la ferme nous avons environ une petite quarantaine de variétés de pommes, exclusivement principalement des variétés locales. Necha, Cudoison, Vérolo, Petit Bon, Locard, Gros Locard, Petit Locard, Necha, qu'est-ce qu'on a, Bondon.
Ces variétés de pommes, pour les industriels, c'est pas intéressant, pour quelle raison?
C'est même pas intéressant pour les planteurs, parce que de toute façon, les rendements sont relativement faibles, et le prix rémunéré au producteur sera toujours insuffisant. Donc l'industriel ne voudra pas payer le prix fort pour ces vieilles variétés-là. Donc il y a un désintéressement total au niveau économique. Et c'est pour ça qu'on les abandonne. Mais moi je trouve que ce sont des variétés, au contraire, qui sont extrêmement riches qualitativement. Elles apportent vraiment des diversités dans les jus de pommes et dans les cidres, bien sûr, mais une grande diversité au niveau du jus de pomme qui est extraordinaire.
Quarantaine de variétés de pommes, de manière à étaler le plus longtemps possible cette récolte.
Travailler sur des variétés de pommes à cidre du terroir font qu'elles sont pratiquement insensibles aux maladies, ou en tout cas très résistantes. On a pu passer en bio relativement, entre guillemets, relativement facilement. Mon père a été précurseur et donc a été vu pour un original, alors que maintenant c'est complètement dans le thème et forcément ça a l'avantage, en tout cas pour moi et pour ma carrière qui va arriver, ça a l'avantage que tout est déjà en place. Alors moi-même j'aime pas mal tout ce qui est voyage, partir à l'étranger, etc. Donc l'un des axes quand je me suis installé en tant que jeune agriculteur, c'était de développer l'exportation. Aujourd'hui, l'exportation, c'est encore un tout petit chiffre chez nous, mais ça reste 6 ou 7% de notre chiffre d'affaires.
Voilà, donc maintenant, on va libérer le poids de la poutre. C'est un pressoir à abattage.
Le croqueur sans couteau, c'est comme un aveugle sans sa canne. Hein.
Les variétés anciennes seraient l'avenir des pommes. Certains en sont convaincus.
Dans un contexte de changement climatique qui est quand même très très sévère, on a par exemple une vieille variété qui s'appelle Locard. C'est une variété qui a un peu tendance à disparaître parce que les humains, n'aiment pas trop l'amertume. Alors qu'en fait, l'amertume, c'est un moyen naturel de défense du végétal parce que les petits vers, ils sont un peu comme nous, ils n'aiment pas trop l'amertume. Et donc, c'est des variétés qui sont peu véreuses. Une peau épaisse, résistante à l'évaporation, au dessèchement. Donc, enfin bref, deux éléments qui permettent de dire que voilà, une variété a des caractéristiques qui sont des atouts pour l'évolution future. Je dirais les gens de l'INRA, les chercheurs de l'INRA, qui sont les créateurs de variétés, j'allais dire bien connues, on travaille avec eux et il y a un travail d'identification et de comparaison génétique. Et je pense que derrière ça, l'INRA est aussi contente de faire le point sur le bilan sur le patrimoine génétique en pommes ou en poires qui existe en France, ce qui leur permettra peut-être aussi de s'appuyer là-dessus pour continuer leurs travaux de recherche et de production de nouvelles variétés. Et quand on aura bien faim, peut-être qu'on sera content de les avoir. Donc c'est le futur, on ne sait pas de quoi il est fait. Donc par prudence, il me paraît important qu'on garde un maximum de choses.
Pour se réconcilier avec les pommes, les producteurs multiplient les efforts et accompagnent l'engouement pour les circuits courts.
Il y a 20 ans, quand mon père s'installait et a commencé la vente directe, déjà, faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était déjà un uluberlu par rapport à pas mal de ses collègues. Il faut bien se dire que le jus de pomme à l'époque, il y a 20 ans, on donnait le jus de pomme parce qu'il ne valait absolument rien. Les gens n'en voulaient pas. Le cidre n'avait aucune valeur aux yeux des gens, etc. Donc il faut bien se rendre compte déjà de l'historique.
Mais
Mais aujourd'hui, la consommation a bien changé. Drive fermier, restauration collective. Dans ma famille, ils se fichent un peu de moi parce que les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas du tout ma tasse de thé. Quand on a un site internet, on fait sous-traiter à des gens, à des amis ou autres, pour être sur internet. Aujourd'hui, il faut être visible. Ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant.
Donc, pomiculteur, vendeur, communicant.
Il faut être aussi très bon technicien au niveau climatique, agronomique, biologie. Il y a tout ça. Et puis, il y a aussi le banquier qui vous dit qu'il faut faire du business. Donc, j'avais calculé une fois entre 14 et 16 métiers différents, de tâches différentes, tout ça en même temps.
Presque 10 kilos.
Ça va être un petit peu acidulé, ça va être un petit peu plus ferme. Et Gala va être plutôt sucré.
Avant, on avait des belles grosses pommes bien dures, bien assez, bien fermes.
J'ai fait plusieurs écoles et en fait, pour se différencier, je mettais une cotte verte avec un bretelle et tout, le chapeau et tout. Et donc les gamins, déjà, ça fait un autre personnage. Hein, ils disent qu'est-ce que c'est que celui-là. Il n'est pas sur Facebook, lui. Et je leur mettais systématiquement une pomme, même s'ils n'en voulaient pas. Et il y en a qui grognaient et tout ça. Et après, ils sont revenus, ils en ont demandé. Et puis aujourd'hui... ils mangent des pommes, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'on peut arriver à changer les mentalités si la profession se bouge un petit peu, quoi.
Ça doit faire mal quand même un pomiculteur de voir que des enfants qui grognent pour manger des fruits et des pommes.
Oui, mais aujourd'hui, quand vous voyez le rayon laitier et des yaourts, c'est celui qui a pris le dessus, quoi. Et puis c'est plus facile de manger un yaourt qu'une pomme où on se met un peu, on salit un peu, quoi. Après, ça change quand même aujourd'hui, mais il faut communiquer sans arrêt, sans arrêt. Par exemple, cette année, les pommes très petites, j'ai mis des panneaux partout pour expliquer qu'il n'y a pas eu d'eau, quoi. Et des gens me disent « Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas plu ». Mais ça, il faut expliquer tous les ans, tout le temps, tout le temps.
Ouais, 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 croque, 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 croque la pomme. Croque, 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 croque la... Croque, 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 croque la pomme.
On avait la clientèle qui ne voulait pas entendre parler du bio, donc nous on faisait, mais on ne disait pas. Ensuite, on a eu une clientèle qui a commencé à nous demander. Alors là, on leur disait, oui, on fait, mais on n'a pas encore passé le cap, parce qu'on a des clients qui sont réticents. Parce que le bio, c'était pas bon, c'était des conneries. Ouais. Ensuite, on a dit, tant pis, maintenant, on n'a pas le choix, on va demander la certification. Donc, on est certifié EcoCert pour ce qu'on a toujours fait.
Il fallait déjà croire au jus de pomme, à une période où, dans les années 80, le cidre était en déclin, la consommation de jus de pomme était certainement au plus bas, et c'était le jus d'orange qui prônait avant tout. Aujourd'hui, on a réussi à le démocratiser mieux que prévu d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui dans les grands hôtels et les grands restaurants, aujourd'hui on peut vous proposer du bon jus de pomme local au petit déjeuner. Donc c'est quand même une révolution. En l'espace d'une génération, on a quand même réussi à basculer. Et si on regarde les chiffres au niveau national, la consommation de jus de pomme est en très nette progression. On est à plus de 30 millions de litres de jus de pomme consommés en France aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme et c'est une augmentation constante. On était parti avec des chiffres beaucoup plus bas, autour de 10 millions. Et si on compare avec la consommation de cidre, qui est aux alentours de 120 millions de bouteilles aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on est déjà au quart de cette consommation en jus de pomme. Donc c'est un chiffre qui, à mon avis, va encore très nettement augmenter dans les années à venir.
25 ans en arrière, c'était des gens qui connaissaient déjà et qui avaient vu leurs parents et grands-parents faire. Maintenant, c'est une nouvelle génération qui veut découvrir et voir comment on fait.
Il y a 20 ans, mon père a plutôt promu le musée du cidre, puisqu'on fait musée du cidre. Mon père est un grand collectionneur de pressoirs et de tout ce qui tourne autour de la pomme. Il a promu plutôt l'aspect touristique, culturel, avant la vente directe, puisque la vente directe n'était pas encore au goût du jour, alors que maintenant c'est le contraire, le musée est un complément plutôt que après la vente directe. Comme quoi ça s'est inversé. Et d'une autre manière, le client qui vient chez nous, pareil, la courbe d'âge est inversée. On a des gens de plus en plus jeunes, des jeunes adultes, des adultes avec qui viennent d'avoir leurs premiers enfants. Voilà, donc là il y a des gros changements de comportement. Ouais.
La glénon, la nez plate, le petit jaune, la châtaignière, la loca, la brole, la...
C'est la fin de cette émission Ici Londres. Bonne écoute.
Pomme que je connais.
Bonne journée.